Bien chers frères et sœurs, d'abord pour les enfants, un petit mot. On entend dans la première lecture, vous avez peut-être entendu, que Dieu était jaloux. On entend dans l'évangile que Jésus se met en colère. Et ça, une fois, du coup, j'étais dans une séance de catéchèse avec des enfants. Et je leur avais demandé, voilà, est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont jamais péché? Et parce que un enfant était bien catholique, il m'a dit, Marie n'a jamais péché. Donc ça, en effet, le dogme de l'Immaculée Conception était clair et c'était beau. Après, je lui ai dit, mais alors? Et il me dit, non, c'est tout. Alors je lui ai dit, Jésus. Et il me dit, Jésus, il s'est mis en colère contre les marchands du temple. Et donc, c'était qu'il a péché à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, il a fallu expliquer un petit peu comment la colère de Jésus n'était pas un péché, et comment est-ce qu'au contraire, elle était bonne, parce qu'elle était un moyen de faire grandir la justice et d'assurer, du coup, le bien de ce pourquoi le temple était fait. Parce que, voyez-vous, les enfants, l'essentiel de retenir de cet évangile, c'est cette histoire de Jésus qui surgit dans le temple et qui est triste parce que, en fait, ce pourquoi le temple est fait n'est plus vécu vraiment. Et du coup, dans cet évangile, on voit tant de gens qui sont affairés dans plein de choses différentes, dans plein d'activités diverses et variées, et il manque, en fait, le cœur qui n'est pas visible, qui est le fait d'aller à la rencontre du Père, puisque ce temple, c'est la maison de son Père, dit Jésus. Le temple, c'est le lieu pour les Juifs où Dieu habitait. Et c'était vraiment le lieu central pour eux, de leur culte. Alors, il va comparer le temple à son corps. Et il va dire, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Et là, les apôtres, petit à petit, vont comprendre qu'en fait, c'était de son corps qu'il parlait. Et donc, Jésus nous dit aussi que maintenant, la nouvelle façon d'aller à la rencontre du Père, c'est d'abord de savoir rencontrer Jésus. Et en rencontrant Jésus, en passant par son corps, nous allons vers lui. Alors les enfants, c'est pour nous un peu pareil parfois, parce que quand on va à la messe, on voit plein de gens qui font des choses un peu dans tous les sens, on voit des choses qui se passent, des actions qui sont menées, et puis des fois, on n'arrive pas toujours à saisir le cœur de ce qui veut être vécu, on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au fond de ce que Dieu veut. Alors, il s'agit alors de demander à ceux qui font tous ces services divers et variés. Il s'agit de leur demander, et puis aussi à vos parents, à vos grands-parents, de leur dire finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Et eux, ils sauront vous dire, parce que l'essentiel, c'est cette intériorité avec Dieu. L'essentiel, c'est ce lien que nous avons dans chaque messe avec le Père. Et puis du coup, ils vous diront, le cœur de la messe, c'est cette écoute de la parole et cette contemplation de Jésus présent dans l'autel. Quand le prêtre montre le pain, quand il montre la coupe, c'est le corps de Jésus qui est là présent. Et Jésus qui dit, par ce corps, vous allez jusqu'au Père. Dans ce corps, vous découvrez le Père. Ça veut dire que ça doit être un chemin dans votre cœur, les enfants. Allez aussi vous-même, quand vous venez à la messe, dans votre cœur, vers le Père. Essayez de faire cet effort-là, de mieux pouvoir vous concentrer dans la prière. De ne pas parler à son voisin, de respecter plutôt justement sa propre intériorité à l'autre et de pouvoir dire l'autre a besoin aussi d'aller vers le Père et je vais l'aider aussi en ne lui parlant pas et en lui permettant de prier d'aller vers le Père et ainsi petit à petit il y a un chemin intérieur qui se fait et on découvre, on dit Seigneur il est bon d'être ici avec toi Seigneur je voudrais bien pouvoir un peu mieux vivre ce que tu me dis Seigneur je découvre que tu es là dans ton amour présent et ainsi petit à petit vous aurez une plus grande délicatesse pour saisir ce qui se vit à la messe, et puis Dieu pourra vous rejoindre parce que vous aurez ouvert votre cœur. Voilà, retenez cet essentiel, c'est ce zèle de Jésus pour la maison de son Père, et de se dire que ce zèle est important, parce que ça veut dire qu'il y a le même pour nous aujourd'hui ici, quand on vient dans cette église, c'est avec ce même désir que Jésus a de pouvoir aller à la rencontre de Dieu le Père, ce même désir de nous dire, oui, ici, nous sommes là pour tous ensemble avancer vers Dieu. Et essayer de plus ou moins saisir petit à petit, en intériorisant les différents gestes de la messe, les différentes étapes de la messe, cette dynamique qui nous conduit vers Dieu le Père. Chers frères et sœurs, pour les aînés, les plus grands, le Christ, ainsi, vient nous rassembler, mais comme il nous dit la deuxième lecture, c'est aussi par sa folie que ça passe. C'est-à-dire qu'il y a une part d'incompréhension, et on le voit dans l'Évangile, justement, à l'œuvre, cette incompréhension qui est là, présente. Les gens, quand ils voient Jésus, ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et donc, il y a une part de folie que nous devons accepter. Même un théologien disait que les chrétiens aujourd'hui sont parfois un peu comme des clowns qui qui, à force de faire leur cirque, leur manège, eh bien, dans une ville, à un moment, il y en a un qui doit annoncer que dans telle maison, il y a un feu. Et donc, il crie à travers toute la ville, « Au feu, au feu !» Et tout le monde se met à rire. Personne ne le croit, car il pense que c'est encore un nouveau jeu qu'il fait. Peut-être que, des fois, nous pouvons sentir cette folie, justement, de notre foi, et nous sentir un peu démunis, justement, de pouvoir la transmettre, de mieux pouvoir en parler, et de faire comme saint Paul cette expérience de finalement plus savoir comment faire. Alors je voudrais aujourd'hui vous inviter à cette attitude fondamentale de la foi qui est d'entrer dans la folie du Christ pour mieux pouvoir après découvrir la sagesse profonde qu'il existe dans ce mystère. Accepter le mystère de la croix, dans ce mystère de la croix qui est un scandale pour les Juifs, scandale aussi pour tous les musulmans quand nous les rencontrons, et qui disent « Non, c'est pas possible que le Fils de Dieu puisse ainsi mourir sur une croix », et qui disent « Non, un prophète, Dieu a forcément le respecté, et donc Dieu fait que ce n'est pas Dieu qui est là présent, ce n'est pas un prophète qui est là présent sur la croix. » Et nous, chrétiens, nous sommes obligés de se dire « Si, c'est vraiment Jésus qui est allé jusqu'au bout de l'amour, et qui est allé jusqu'au bout du don de lui-même. » Et il faut passer à ce moment-là par le fait d'accueillir ceci comme un témoignage d'amour et de fidélité. Je pense que l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers est un peu le moment clé. C'est le moment où Jésus, juste avant d'être arrêté, pourrait partir dans un autre pays. Il pourrait s'enfuir ailleurs pour ne pas être arrêté, parce qu'il sait que justement, un de ses amis, un de ses apôtres va le trahir. Et à ce moment-là, il reste et il dit à Dieu, non pas ma volonté, il dit à son père, non pas ma volonté, mais ta volonté. À ce moment-là, il est resté au prix d'un choix qui lui a coûté, fortement douloureux, mais qui lui a aussi donné la paix, qui lui a donné la joie et la présence des anges qui le servaient, qui étaient là avec lui. Et en fait, ainsi, c'est devenu, du coup, ce moment-là, une véritable figure du mariage, parce que l'amour de Dieu pour son peuple est fidèle. L'amour de Dieu pour son peuple, Dieu a choisi d'aimer son peuple, d'aimer sa création, et il a choisi, du coup, de s'engager pour elle complètement. Un amour absolu que rien ne peut effacer. Il s'est donné pour le meilleur et pour le pire, et sa fidélité est un choix qu'il ne veut pas remettre en question. Dans ce choix-là aussi, eh bien, nous le voyons passer du coup de la mort à la vie, nous le voyons triompher par le bien de tout mal. Et la beauté du sacrement du mariage, c'est justement de vivre cette même réalité. Chacun d'entre vous qui êtes marié ou qui vous préparez au mariage, eh bien, essayez de se dire, voilà, cette même réalité, ce choix absolu de fidélité, qui s'appuie d'abord sur la fidélité du Christ, eh bien, c'est ce choix-là que vous faites, que vous avez fait, que vous faites chaque jour. Et cela donne de la joie de se donner pour ne pas se reprendre, et ainsi de vouloir faire résonner dans toute la vie, tout le quotidien de la vie, ces paroles humaines prononcées un jour. « Oui, je te reçois comme époux, comme épouse, je me donne à toi pour vivre avec toi dans l'amour et la fidélité, dans la joie et les épreuves, pour t'aimer tout au long de la vie. » Cet amour conjugal, alors, quand il accepte la figure du Christ, qui porte aussi, du coup, sa folie de la croix, il découvre un chemin d'une croissance perpétuelle. L'amour ne passe pas, nous dit saint Paul, et donc l'amour conjugal, appuyé sur l'amour de Dieu pour les hommes, ne passe pas non plus, mais toujours en croissance. Et c'est cet amour en croissance que nous sommes toujours appelés à contempler. Chacun d'entre nous, les époux dans le mystère de cet amour conjugal, chacun d'entre nous dans le mystère de cette charité que depuis le baptême, comme Adam va recevoir aujourd'hui, eh bien que Dieu a mis en nous. Chaque jour, ce regard d'amour porté sur le conjoint, sur la conjointe, c'est un regard qui élève, c'est un regard qui accueille, c'est un regard qui se donne. J'avais vu une fois, dans une paroisse dans le Beaujolais, par hasard, tapant une porte comme cela, par hasard, eh bien, j'avais découvert une dame qui, depuis 10 ans, vivait auprès de son mari, en s'occupant de lui. Toutes ses journées étaient données pour lui, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et c'était beau de voir sa tendresse, de voir sa délicatesse, et puis aussi le fait qu'elle y trouvait vraiment sa paix, de pouvoir rester avec lui chaque jour, ainsi, fidèlement, même si lui ne pouvait plus parler, même si lui restait couché toute la journée, et que finalement, voilà, tout son quotidien était donné à son mari. Jésus, même après sa mort, continue, lui, de se donner parce qu'il est vivant et ressuscité. Et aujourd'hui, il se rend présent à chaque messe pour nous donner son amour. Ce que nous recevons à chaque messe, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et du coup, quand nous sortons de la messe, c'est une nouvelle capacité à aimer. Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'entendre dans les commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de meurtre. tu ne feras pas telle ou telle chose, tu ne désireras pas tous les biens de ton voisin, parce que, eh bien, cela est vrai pour nous. Quand nous sortons, eh bien, nous avons à faire attention à notre capacité à aimer. Nous avons à faire attention, quand nous sortons de la messe, à comment nous avons pu grandir dans l'amour et comment il y a des choses qui, au contraire, blesseraient cet amour que Dieu a voulu nous donner. Être attentif aux paroles, paroles de bénédiction et non pas paroles de médisance. Être attentif aussi à l'accueil et non pas au fait de s'enfuir, chacun pour soi, dans l'isolement d'une vie personnelle, mais de pouvoir s'accueillir les uns les autres, même si on ne se connaît pas. Voilà toute cette dimension de la charité que nous avons à vivre à chaque messe, après chaque messe. Cet amour fidèle qui continue à nous rassembler et à nous donner, à nourrir notre amour, notre capacité à aimer. Chers frères et sœurs, chers fiancés, tout à l'heure, quand j'élèverai l'hostie, contemplez l'amour donné de Jésus aujourd'hui encore. Et rendez grâce pour l'amour que vous vous donnez, que vous voulez vous donner, et pour cet amour qui vous est donné pour mieux vous donner vous-même. Et puis tout à l'heure, à la communion, dans une prière silencieuse, intégrez cet amour de Dieu en Jésus, intégrez-le en vous, pour mieux pouvoir le diffuser. Et concrètement, dans la prière personnelle que vous pourrez faire après la communion, dites-vous, « Seigneur, merci pour cet amour que tu me donnes, je veux qu'il m'aide à aimer un tel, à s'aimer entre fiancés, à s'aimer entre conjoints, à s'aimer entre frères et sœurs, à s'aimer les uns les autres. » Et dans cette première lecture, Dieu nous indique combien ce chemin est raisonnable. Et à travers ces 10 paroles de vie, ces 10 commandements, il nous dit, voilà, le chemin-là que vous suivez, c'est un chemin qui est bon pour l'homme. Et en le choisissant, parce que cela demande un choix, eh bien, vous faites l'expérience que vraiment, Dieu, là, alors, eh bien, veut votre bénédiction, veut votre bien, que Dieu vous nourrit et que Dieu, vraiment, eh bien, nous rassemble tous dans un seul corps qui se met à son écoute et qui s'aide pour mieux pouvoir le vivre. Tous, nous avons à nous aider les uns les autres. Aidons-nous déjà par notre prière maintenant, aidons-nous par notre fraternité qui nous unit, aidons-nous ainsi à mieux pouvoir vivre cet amour que Dieu, fidèle, désire que nous vivions nous-mêmes dans la fidélité. Amen.